Décryptualité. Le podcast qui décrypte l'actualité des libertés numériques. Semaine 25, salut Manu.
Salut Nolwenn.
Salut Nico.
Salut Luc.
Bon, il se passe un truc super bizarre là, le son est correct, non?
Bah, on suppose, on espère.
Hein. Ah,
bah,
la fin du confinement, ça aide. Hein.
Oui, bon, je suis rentré, vous êtes là. Donc c'est Marie-Odile qui va moins souffrir. Hein. Marie-Odile, on n'en a jamais parlé, mais on aurait dû. Transcrit tout ce qu'on fait, donc toutes les semaines. Elle passe un temps incroyable et elle fait un boulot phénoménal pour nous transcrire, ce qui permet de pouvoir nous lire derrière. Donc bravo Marie-Odile et merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Ce sera le dernier podcast de la saison. On va arrêter un petit poil en avance. On va voilà, s'arrêter sur un son correct. Et donc, revue de presse.
Ouest-France.fr, Rostrenen, Esprit Fab Lab, lutte contre l'exclusion numérique. Un article de la rédaction.
Une petite association locale qui se lance pour aider les citoyens de la commune, notamment dans le cadre éducatif, parce qu'on se rend compte qu'il y a plein de gens qui ont eu besoin de suivre leurs cours à distance, mais qui n'avaient pas d'ordinateur. C'est l'occasion de récupérer des vieux ordinateurs, de les remettre en forme, mettre du logiciel libre dessus, les distribuer aux étudiants. C'est une bonne initiative.
Alors, ces temps-ci, je fréquente beaucoup d'enfants. Et voilà, je découvre que l'usage de l'ordinateur n'est pas gagné. Pendant longtemps, on disait que les jeunes, ils étaient à l'aise avec l'informatique. Ce n'est plus vrai, je pense, parce qu'avec les consoles, les téléphones portables, il y a plein de gamins qui utilisent rarement un ordinateur. Et il y a plein de gens qui sont perdus.
Oui, j'ai une collègue qui est enseignante dans le supérieur et qui, à chaque année, est époustouflée par le niveau de plus en plus bas des étudiants en usage des outils numériques. Et ça fait très peur. ZDNet France, libre et open source, Hambourg, pseudonymisation Etalab, cloud libre, rapid.space, mécénat code lutin, smile. Un article de Thierry Noisette.
Alors c'est un pot pourri de différentes nouvelles qui concernent du logiciel libre à un moment ou un autre. Entre Allemagne et entreprises, notamment entreprises nantaises, il me semble. Parce que code lutin, il me semble que c'est par là-bas.
Oui, pas loin.
Et donc, allez jeter un oeil si vous voulez voir, c'est assez sympa.
Le blogauto.com, ah, on parle voiture. Volkswagen, l'open source pour affiner l'OS du véhicule, un article d'Elisabeth Studer.
L'ouvrier spécialisé ?
L'open source, l'OS, ah oui, l'OS, le système d'exploitation, mais en anglais, l'operating system. Et effectivement, dans les voitures, les véhicules en général, il y a de plus en plus d'informatique. Ça peut être bien, mais justement, il y a des problématiques qui sont autour de cela. C'est difficile à développer. Et il est intéressant de passer sur du logiciel libre pour mettre en commun. C'est-à-dire que les constructeurs peuvent essayer de standardiser un système qu'ils vont pouvoir réutiliser entre leurs différents véhicules. Ça peut être bien pour la sécurité, pour les coûts de développement, parce que c'est compliqué.
Et pour ne pas tricher aux tests de pollution.
Ah, tu veux dire, non, Volkswagen ne ferait jamais ça.
ZDNet France, pseudonymisation des données, la plateforme Ulz Data Hub sommet d'éclaircir ce point devant la CNIL, un article de Clarisse Trey.
C'est une sommation intéressante, parce qu'on en a parlé plusieurs fois, on est embêté. Les données de santé françaises sont envoyées sur des ordinateurs américains. Et on connaît les lois américaines, on sait qu'elles sont un peu dures et qu'elles se donnent le droit d'accéder à ces données-là. Donc c'est gênant. Et dans ce cadre-là, la CNIL demande un peu plus d'informations pour s'assurer que ce sont bien les lois européennes qui vont s'appliquer.
Bien, merci. Donc pour notre sujet de la semaine, on va se poser une question importante. C'est, nous faut-il plus de police sur Internet ?
Alors là, vraiment, tu nous trolls, tu commences fort.
On va finir par porter plainte, hein.
Alors pourquoi ? Dans le paysage, il s'est passé quelques trucs. Donc déjà, la loi Avia dont on parlait il n'y a pas très longtemps.
Qui était un de nos sujets.
Voilà, qui a été votée. Oui. Loi contre la haine sur Internet. Et grosse déception pour La République En Marche, le Conseil constitutionnel a en gros saqué l'essentiel de la loi.
Ils ont appelé ça une non-conformité partielle, mais en fait, de partiel, il doit rester que le titre, plus ou moins. Tout a été sauté, en fait, parce qu'ils ont considéré tout ce qu'on disait depuis le début, en fait, c'est que les conditions de suppression des contenus de 24 heures et en prenant le risque de sur-censure ou de sous-censure, c'était pas viable et que ça allait conduire à des effets de bord vraiment pas cool et que les éditeurs et les hébergeurs allaient massacrer les contenus pour éviter les risques juridiques. Donc ils ont dit que c'était pas constitutionnel et donc ils ont supprimé l'intégralité du pan de tout ce qui était censure et retrait des contenus. Donc il ne reste plus rien de cette loi.
Du coup, on est triste.
Oh, tellement triste.
Alors, du coup, on va parler d'autre chose.
Voilà, mais en tout cas, ça pose cette question. La haine sur Internet, c'est un sujet. Enfin, même si on aime bien se moquer de Laetitia Avia et de sa loi, et surtout de sa loi, le sujet est pertinent malgré tout.
Et on rencontre régulièrement dans tous les domaines, tous les lieux et dans des contextes qui sont assez étranges.
Effectivement. Donc la logique qu'il y avait derrière cette loi, c'était de faire porter la responsabilité sur les hébergeurs, sur les intermédiaires techniques. Donc en quelque sorte, c'est un des reproches qui leur était fait, c'est de dire c'est une mission régalienne, donc qui devrait être celle de, hein, de la souveraineté de l'État, ouais, du roi, la souveraineté de l'État, et qui est sous-traitée à des entreprises qui sont jugées parties, ce qui est très problématique. Dans l'actualité, on a un autre truc qui est voilà, de la haine sur Internet, mais d'un calibre tout à fait différent.
Alors, c'est presque amusant tellement c'est idiot et ça va loin quand même. Ce sont des employés d'eBay.
Des employés haut placés.
Haut placés, des directeurs, des services de sécurité, de l'intelligence de l'entreprise, de l'intelligence globale, des gens seniors, hein, pas n'importe qui, y compris un ancien policier. Et ils ont été impliqués dans toute une histoire où ils ont fait du cyberharcèlement d'un couple dont la femme, une blogueuse, avait écrit un article très critique envers eBay. Et donc, ils ont décidé... Alors, il n'est pas certain, mais possible que ce soit un de leurs chefs qui leur a demandé, on ne sait pas sûr du tout. Mais ils ont décidé de les harceler en leur envoyant des colis de cafards vivants, d'araignées, en envoyant des masques de cochons sanglants, en envoyant un fœtus de porc, en envoyant des magazines porno à leurs voisins, mais à leur nom, en les abonnant à des mailing lists et à des discussions d'échangisme, et en indiquant leur adresse et en indiquant « Vous pouvez venir à partir de 10h tous les soirs, il n'y a pas de problème, on est ouvert !» Donc des trucs particulièrement sympathiques, et ils se sont déplacés pour aller les surveiller, et ils ont même essayé d'installer un système GPS sur leur voiture, un système physique. Ils se sont fait avoir, ces 6 employés, haut placés, très intelligents, se sont fait avoir lourdement, parce que notamment ils avaient essayé de tricher et de cacher les preuves de leurs méfaits.
Bah, quand on achète quelque chose, du coup ça laisse des traces parce qu'on a payé.
Oui, mais eux, ils avaient quand même fait les choses à peu près proprement. Enfin, en tout cas, ils ont essayé. Ils avaient acheté des téléphones qu'ils utilisaient juste pour ça. Ils avaient des ordinateurs qu'ils avaient achetés exprès pour harceler. Ils utilisaient des cartes prépayées pour faire leurs achats en ligne, etc. Donc, ils essayaient vraiment de se cacher le plus possible quand ils commettaient leurs méfaits.
Ils ont quand même mis les gros moyens.
Ah oui, là, surtout pour le ridicule. Enfin, un blog juste avec quelques critiques, on voit où est-ce que c'est monté en pingue. C'était quand même assez fort.
Moi, ce que je trouve bien, c'est que tu peux te dire que tu peux être petite blogueuse dans un coin et faire un article qui énerve vraiment un géant comme eBay. Donc finalement, moi je trouve ça plutôt encourageant en se disant qu'on peut être petit et néanmoins faire la différence.
Ouais, enfin, j'ai pas forcément envie qu'il m'arrive tout ça, tu vois. Je vais éviter de faire des critiques.
Ah, les cafards, c'est pas si mauvais que ça, je veux dire. C'est clairement du cyberharcèlement et on découvre l'étendue de tout ce qu'on peut acheter sur Internet. Hein, c'est quand même impressionnant. et ils sont fait choper malgré tout.
Alors, on ne connaît pas les détails. En tout cas, j'ai pas trouvé les détails sur la manière dont ils se sont fait attraper. Je sais pas si vous avez entendu parler du truc, donc ça va sûrement... apparaître avec le temps, hein, j'espère. Mais c'est assez grave. Et puis, bah, une entreprise, effectivement, c'est quelque chose d'inhumain et de conséquent. La plupart du temps, le cyberharcèlement, c'est quand même des petits idiots sur Internet qui se font choper assez rapidement. On a eu des cas assez souvent, on en a parlé plusieurs fois.
Oui, mais à mon sens, si tu vas porter plainte parce que quelqu'un dit des misères sur toi, je pense qu'il se passe rien. Toi, Nicolas, tu as un loisir dans la vie qui consiste à faire des procédures judiciaires, c'est ça?
Ouais, c'est un peu ça. Ouais, j'essaye de faire respecter mes droits. Alors, j'en ai déjà 6 ou 7, je crois, à mon actif. Mais c'est vrai que si on porte plainte comme ça, en fait, généralement, ça débouche sur pas grand-chose. Il y a déjà des modèles de lettres sur Internet pour déposer plainte, où vous écrivez juste une lettre au procureur. Mais en fait, ça suffit pas. Généralement, au bout d'un an, je crois que maintenant, ils ont réduit à 3 mois. Mais vous avez une réponse du procureur en disant « Bon, bah désolé, on la classe sans suite. » Et puis, bah voilà, il n'y a rien qui se passe. Et moi, dans mes affaires, en fait, je lâche pas le morceau. Et c'est vrai que je prends tout de suite des avocats, je fais une constitution de partie civile. Donc les gens ne connaissent pas cette démarche, mais ça permet en fait d'imposer au procureur de faire les instructions nécessaires.
En gros, tu commences un procès, quoi.
En gros, c'est surtout l'instruction, en fait, avant le procès. Ça oblige le procureur... Enfin, il ne peut pas classer la plainte sans suite. Mais du coup, il faut un avocat, il faut être bien accompagné.
Il faut de l'argent.
Et de l'argent aussi, du coup. Hein,
ça coûte combien?
Une procédure, globalement, c'est dans les 2000-3000 euros, déjà pour commencer. Après, ça dépendra de ce qu'on trouvera derrière, forcément, et de l'ampleur de la chose. Et j'ai été jusqu'à des procès à 80 000 euros hein, sur des procès d'assises. Donc voilà, ça peut vraiment y avoir de tout. Mais surtout, ouais, dans les petites affaires, c'était de l'escroquerie ou des choses de ce type-là, ou du piratage informatique. C'était bah, presque moi qui ai fait tout le boulot, en fait, de recherche, de remonter la trace des gens, essayer de trouver des pistes pour savoir où est-ce qu'ils étaient, relever leur anonymat, essayer de comprendre comment ils fonctionnaient, et arriver avec un gros dossier à poser sur la table du juge. Parce que les policiers étaient clairement pas compétents et il faut vraiment avoir de la chance.
Mais voilà, donc du coup, tout le monde ne peut pas être Nico. Et si les policiers sont pas compétents, ça veut dire que c'est foutu. Il nous faut plus de police.
Et surtout, comment tu fais pour avoir ces compétences-là? Parce que toi, tu les as de par ton métier et ton expérience, mais la voisine du dessous qui se fait harceler par son petit copain, elle fait comment?
Bah, c'est là où effectivement c'est compliqué. Et c'est là où on manque peut-être de moyens policiers en France, mais pas la police comme on voit à la BAC ou autre dans les rues. Mais vraiment des personnes de terrain qui sont capables d'accompagner les victimes, de faire ce travail justement d'investigation et de pas juste avoir des bouts de papier sur un coin qui restent pendant des années sur...
Des gens qui soient techniquement compétents.
Techniquement compétent, adressé vite aux bonnes personnes, parce que moi c'était assez technique, mais quand j'arrive au commissariat de quartier pour porter plainte pour un piratage informatique, le policier me demandait comment écrire IP, adresse IP, quoi. Forcément que c'est compliqué dans ces cas-là. Il a fallu que j'arrive sur Paris et que je prenne contact avec la BFTI, qui est le bureau qui est spécialisé dans ce type de fraude, pour que on se retrouve avec des gens compétents et qui comprennent le langage et qu'on puisse commencer à avancer.
Si on est panico, on est foutu.
Après, il faut savoir aussi s'encadrer avec des bons avocats. Il faut trouver un avocat qui soit du domaine pour vous accompagner, alors que ce soit du harcèlement, du piratage informatique, de l'escroquerie. Il faut vraiment trouver des personnes qui soient précises sur votre sujet. Et là, il va connaître les textes de loi, il va savoir les bonnes actions à faire. Dans le cadre du harcèlement en ligne, par exemple, il faut tout de suite aller bloquer les données sur les serveurs pour que ça ne s'évapore pas. On sait qu'au bout de 15 jours, on a déjà perdu beaucoup de choses. Au bout d'un mois, on ne trouvera quasiment plus rien.
Oui, parce qu'il y a des obligations légales à garder certaines informations de type adresse IP, etc. etc.
C'est ça, et que les lois européennes disent 15 jours. Donc on sait que si au bout d'un mois, on risque déjà d'avoir des pertes. Donc il faut agir très vite et savoir ce qu'on fait, quoi. Et c'est malheureusement compliqué aujourd'hui de faire rendre justice quand on ne connaît pas et quand on n'est pas informé de ce qu'on peut faire, quoi.
Et quand on n'a pas le temps et qu'on n'a pas les moyens financiers ou physiques de le faire aussi.
Oui, parce que c'est très très chronophage et effectivement, il faut aussi avoir de l'argent. Vos assurances peuvent vous accompagner là-dessus, on le sait assez rarement, mais la plupart des assurances habitation contiennent les assurances juridiques à l'intérieur. Mais pareil, il faut aller combattre son assurance parce qu'elle ne va pas vouloir prendre ça en charge, et donc il faut aussi taper de ce côté-là. Point, et on arrive à quelque chose à la fin. Mais oui. Ça prend du temps. La plus grande affaire que j'ai eue a duré quasiment 10 ans. Pour juste une escroquerie à la serrurerie, on est déjà à plus de 10 ans et on n'a toujours pas de visibilité sur la chose derrière, quoi.
Comment tu fais quand tu es une personne seule, isolée, que tu es déjà fragile et que tu es encore plus fragilisée parce que tu viens d'être lésée pour porter plainte et réussir à faire toutes ces démarches? Est-ce qu'il y a des associations pour aider ou...
Il y a certainement des associations sur le harcèlement ou autre. Vous pouvez vous tourner vers des associations féministes ou qui vont être capables de vous conseiller.
Quand on est une femme.
Quand vous êtes une femme ou même un homme, la plupart des problèmes de violence conjugale, ça va malheureusement toucher les femmes. Mais effectivement, tournez-vous vers des associations, associations de consommateurs si c'est du droit du commerce ou de l'escroquerie. Le harcèlement en ligne ou les violences conjugales, tournez-vous vers les associations féministes et spécialisées du domaine. Et généralement, vous vous envoyez vers les bonnes personnes pour pouvoir prendre le relais et vous accompagner.
Il va falloir que tu publies des données un petit peu plus conséquentes. Je sais que tu as un truc sur le RGPD où tu veux t'assurer de l'usage de tes données. Il va falloir que tu mettes tout ça en ligne et que tu en parles un peu plus, que tu fasses des livres.
C'est sûr qu'on pourrait écrire des bouquins. D'un autre côté, justement, mes différentes expériences ont montré qu'on manque cruellement de cet accompagnement et de cette volonté de la police d'investiguer sur les affaires et que la plupart du temps, ils se considèrent débordés ou... toujours plus urgent en fait, et ils ne transmettent pas aux bonnes personnes et aux bonnes brigades qui potentiellement, elles, sont moins chargées que le commissariat de quartier qui va avoir des plaintes toute la journée, quoi.
Moi, ça me paraît logique qu'effectivement, il y a des crimes, il y a des meurtres, des viols, donc ça me paraît logique qu'on va souvent mettre ça en priorité. Mais effectivement, c'est une question de volonté, et à un moment donné, quand il y a une jeune fille qui se fait cyberharceler parce qu'elle a parlé mal d'une religion, là, ça remonte au niveau politique, et ça redescend sur les autorités qui vont dire « Non, là, il faut qu'on fasse quelque chose. » Il y a une volonté qui apparaît.
Ça, c'est uniquement quand il y a du buzz. Mais s'il n'y a pas de buzz, ça ne remontera jamais.
Ouais, et de fait, dans ce cas précis, l'avocat a fait monter le buzz. La famille a pris un avocat et c'est lui qui a monté l'affaire en épingle dans les médias pour forcer le pouvoir politique et la justice à prendre l'affaire en main. Sans quoi, effectivement, ce ne serait pas passé grand-chose.
Mais c'est ça où j'appelle une volonté. La volonté, c'est vraiment... pas juste d'une personne qui a des moyens limités, c'est que ça remonte à quelque chose de conséquent, le pouvoir politique notamment, et quand ce pouvoir-là veut quelque chose, il va le faire avec de la difficulté, mais il peut mettre les moyens. Mmh. Et mettre les moyens, c'est de choper des experts qui vont aller se déplacer, et pas forcément aller très loin, hein, parce que souvent, c'est ça qui est amusant, c'est que la plupart des cyberharceleurs sont des petits idiots. Donc,
oui, et puis ça va aller très vite de les trouver. Hein. On va aller voir le forum directement, le police va aller taper au carreau. Bonjour, vous pouvez me donner l'identité de cette personne? Et puis on va les avoir en 24 heures, c'est fini.
C'est un cas de ce type-là avec Nadia Adam, cette journaliste qui avait été harcelée par des membres du forum 1825 de jeuxvideo.com. Effectivement, ils en ont chopé deux qui sont écrasés au tribunal et ça a été assez, a priori assez simple et assez rapide. Mais en tout cas, l'affaire qu'on mentionnait avec eBay au début nous démontre que ce n'est pas nécessairement que des petits idiots.
Non, voilà. Ça fait même peur. Hein.
Cette semaine, il y a également l'UFC Que Choisir qui a fait condamner Apple, pas sur des questions de harcèlement, mais sur des questions de non-respect, notamment du RGPD, du droit des consommateurs. Ce qui nous rappelle que même les grosses boîtes peuvent très volontiers ne pas respecter la loi et que quand on veut les faire respecter, ça coûte cher, ça prend du temps. De l'intérêt d'avoir des démarches collectives, des associations dont tu parlais, Nicolas. Et là, il y a clairement sur la non-ligne des besoins qui, aujourd'hui, sont a priori pas trop couverts.
Comme on a toujours dit sur la loi Avia, on n'a pas besoin d'avoir de nouvelles lois et de choses comme ça. Ils ont besoin d'essence pour leur voiture et d'encre pour leur stylo. Et avec ça, ils sont capables d'aller trouver les personnes. Il n'y a pas besoin d'avoir toute cette automatisation d'intelligence artificielle ou de boulot des GAFAM.
Il faut peut-être un ordinateur, parce que juste un...
Oui, oui. voilà, mais,
l'équivalent.
Mettez du monde pour résoudre ces problèmes-là et ça disparaîtra. Et arrêtez de croire que la technologie va tout régler.
En tout cas, on va le contrôler.
Ouais. Voilà.
Très bien. Eh bien, on s'arrête là-dessus.
On vous dit bonnes vacances à tous, bon été
et à la rentrée.
Salut tout le monde.
Au revoir.